La respiration holotropique, nous retrouvons Marc Menon et son invité, Djomar Sy Ahmed, avec bien sûr vos témoignages, vos questions, vos commentaires sur le 01 42 32 15 15.
Oui, Jackie, Djomar Sy Ahmed avec nous, donc, qui est psychanalyste, qui a créé l'Institut des champs limites de la psyché. Et alors, je dirais, c'est l'embarquement pour le voyage intérieur. C'est peut-être ça la bonne formulation pour la respiration holotropique, non?
Oui, une fois l'hyperventilation mise en place, effectivement, c'est l'embarquement pour le voyage intérieur. Alors, je voulais quand même rappeler quelque chose, c'est que c'est un travail qui se déroule dans des conditions de sécurité, avec des personnes qui sont formées pour cela, qui sont, deux psychanalystes et psychothérapeutes. Et holotropistes, donc, à mettre en place ces groupes. Et effectivement, ensuite, le sujet s'embarque, c'est pas toujours facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, s'embarque vers le voyage intérieur, c'est-à-dire à laisser advenir ce qui vient de l'intérieur. On pourrait dire en d'autres termes, à ouvrir les portes de sa perception, ouvrir les portes de son inconscient, et à laisser advenir le matériel tel qu'il a à advenir ce jour-là pour lui. Et on ne sait jamais, quelles que soient les choses que l'on peut savoir par ailleurs de la personne qui se met en état de respiration, qui va entrer dans ces états, on ne peut jamais prévoir, et heureusement, parce que ça voudrait dire que l'on sait, ça voudrait dire qu'on va suggérer à la personne, on ne sait jamais de quoi sera fait ce matériel. Nous sommes là pour accompagner ce qui se présente et aider au déploiement de ce qui se présente de façon à aider la personne à dépasser et à terminer la forme de ce qui se présentait. On reviendra tout à l'heure.
Est-ce qu'une personne qui se trouverait tellement embarrassée de par son vécu, de par les entraves qui depuis sa tendre enfance sont nichées en elle, cette personne serait dans une telle peur de découvrir ce qu'il y a d'essentiel en elle qu'elle n'arriverait pas à atteindre cet état de conscience modifié?
Je vais répondre de deux façons à cette question. Il y a effectivement, à partir du moment où on hyperventile, à partir du moment où on est dans ce contexte, il y a de toute façon des modifications d'état de conscience qui se produisent. On n'est plus en état vraiment vigile, on n'est plus vraiment dans... Il y a des musiques, il y a un contexte très particulier. Cependant, étant donné que c'est un travail qui n'est pas directif, chaque personne va avancer dans ce travail à son propre rythme. Il y a des gens qui vont plonger directement dès la première séance parce que c'est vital, parce qu'ils sont prêts à ce moment-là aux racines même de leur souffrance, et d'autres qui vont mettre plusieurs week-ends avant de pouvoir plonger là pour trouver l'événement essentiel. Cela ne veut pas dire qu'un travail n'est pas fait entre-temps, mais il y a une question de rythme que l'on respecte.
Alors, ce que je vous propose pour bien comprendre ce que l'on peut vivre, c'est une expérience d'une personne qui s'est rendue chez vous, qui s'appelle Carmen. Et Carmen, je dirais que ce n'est pas une abonnée, mais elle est venue plusieurs fois. C'est bien cela?
Oui, je n'emploierai pas le mot d'abonnée. C'est un cheminement.
Ouais.
Donc, effectivement, Carmen fait partie des personnes qui sont venues, qui font un travail régulièrement. Le régulier ne veut pas dire tous les 15 jours ou tous les mois, c'est régulier, ça veut dire que ça peut être une fois par an, ça peut être une fois tous les 6 mois, ça peut être une fois par mois, tout dépend du cheminement de chacun.
Il n'y a pas de dépendance quand même.
Non, il n'y a absolument pas de dépendance, enfin, je pense que vous pouvez lui poser la question. Donc il n'y a pas de dépendance au sens où c'est un travail qui ouvre tellement la personne et qui la libère tellement qu'elle-même trouve son propre rythme et qu'à un moment donné les gens cessent de venir parce qu'ils ont atteint ce qu'ils étaient venus chercher. Cela dépend, donc ils peuvent l'atteindre en quelques séances, ils peuvent l'atteindre en plusieurs séances.
Alors avec Carmen, que nous avons enregistré, on ne va pas tricher, avec Carmen on va voir immédiatement que cet état holotropique va beaucoup plus loin que la simple analyse et qu'on se retrouve parfois devant l'invraisemblable.
Bon, écoutez, c'est une expérience un peu, enfin très extraordinaire parce que ça m'a beaucoup perturbée. Hein. D'abord, chaque séance est une expérience extraordinaire, unique. Hein. Moi, pour moi...
Parce que vous êtes une abonnée, vous?
Oh, non, je ne suis pas une abonnée, mais disons que j'ai fait une dizaine de séances.
D'accord, et à chaque fois avec des ressentis totalement différents.
Ah oui, totalement différents et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
Hein. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes une droguée de la respiration holotropique?
Ah non, pas du tout, puisque de ces 10 séances, je les ai fait étalées sur à peu près 6 ans. Hein.
Ah d'accord.
Donc c'est pas...
Vous risquez pas l'overdose?
Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, dans cette séance, qui est en fin de compte la première séance d'holotropie que j'ai fait, hein. Donc, dès la première séance, je me trouvais à l'intérieur d'une église. Une église très sobre, blanche, enfin, les murs blancs, il y avait des bancs, etc. En face de moi, il y avait un très grand tableau d'une vierge tenant son enfant dans les bras. On était en train d'officier, c'était une messe d'enterrement, et c'était l'enterrement de mon père. Je dois préciser que j'avais 9 mois lorsque mon père est décédé, donc je n'ai jamais assisté à cette messe. Mmh. Et d'autre part, je ne suis pas pratiquante, donc je ne vais pas à l'église. Et que cette église se trouve à peu près 2000 km d'ici.
Donc, ce qui est formidable, c'est que vous retrouvez en un lieu qui vous est totalement inconnu, et vous êtes conscient d'assister à l'enterrement de votre papa, ou vous le comprendrez plus tard?
Ah non, je sais très bien que c'est mon père hein, qui
D'accord.
est là. Hein. Et d'ailleurs, je me suis promenée dans l'allée centrale. Et dans, enfin, il faut dire aussi que quand on est en état modifié de conscience en holotropie, on perd, enfin, on est soi-même. Et en même temps, on perçoit les sentiments, les réactions, etc., des autres personnes qui sont en face de vous. Et c'est difficile à expliquer parce qu'en fin de compte, on est soi et on perçoit les autres.
Oui, c'est ça. Il y a une sorte d'adhésion de soi à la situation que l'on projette, tout en étant conscient que l'on est quand même dans un monde de l'imaginaire, mais qui est bien présent.
Oui. Donc, moi, je me suis promenée dans cette église. Il y avait, au fond, il y avait une statue de Saint-Antoine. Il y avait donc le cercueil de mon père qui était près de l'autel. Et lorsque je me suis approchée du cercueil, j'ai eu l'impression d'être mon père. À chaque fois, si vous voulez, lorsque je m'approche d'une personne, je perçois ce que cette personne ressent, pense, etc.
Oui, mais là, en l'occurrence, étant donné que votre papa était décédé, qu'il était dans ce cercueil, à moins que l'on pense que son esprit rôde en ce lieu, théoriquement, vous ne pouviez pas avoir la moindre perception par rapport à lui.
Eh bien, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on perçoit quand même cette existence. J'avais l'impression d'être mon père à un moment donné. J'avais l'impression d'être... Lorsque je me suis approchée du cercueil, j'avais l'impression d'être lui.
C'est-à-dire que vous étiez dans une grande tristesse de voir ceux qui étaient épleurés de votre disparition. Vous étiez au contraire aux aguets pour essayer de savoir ce qu'ils ressentaient réellement, ce qu'ils avaient éventuellement à vous adresser une dernière fois.
Non. On est la personne qui est décédée, c'est-à-dire une très grande tristesse, un très grand calme. Non, on n'est pas à guetter, je sais pas comment m'expliquer, mais on guette pas, vous savez, on vit les choses, ça se déroule tranquillement, mais on ne commande pas, on ne dirige pas, c'est très difficile d'exprimer ce que l'on vit à ce moment-là, hein. Ce sont des choses très intenses.
Mais vous entendiez par exemple les propos du prêtre?
Ah, j'entendais la messe, j'entendais les pleurs, je ressentais... la tristesse des gens, de ma famille, et tout ça, oui.
Et est-ce que vous aviez le sentiment d'être en même temps dans un autre monde? C'est-à-dire que là, ça prend une troisième dimension. Il y a votre dimension à vous, puisque vous gardez une place dans la réalité. Vous vous sentez être à la place de votre papa. Mais est-ce qu'éventuellement, vous étiez dans une sorte de lumière, dans un ailleurs?
Oui, moi, je dis toujours que je suis dans un autre monde. Quand il y a cette phase dans l'holotropie, c'est-à-dire on respire, etc. Et j'arrive dans un autre monde. Et alors là... C'est totalement différent. On a une perception des choses, des événements, des êtres qui n'a rien à voir avec la perception que l'on a actuellement quand on est sur Terre.
Ça, j'ai bien compris, Carmen. Simplement, là, en l'occurrence, puisque vous prenez la place d'un défunt, ce défunt, il assiste à son propre enterrement, puisque vous dites, j'avais... la sensation de voir les gens pleurer, de sentir leur tristesse. Mais est-ce qu'en même temps, parce que le défunt, il est déjà ailleurs, est-ce que vous aviez le sentiment d'être dans un autre monde?
Non. Moi, j'étais le père, enfin, le corps qui était là.
D'accord.
Voilà.
Mais pas l'esprit, en l'occurrence.
Non. Le corps. Uniquement le corps.
Et alors, donc, vous notez toutes ces informations, ce lieu exigu, et bon, vous dites, j'ai rêvé d'une certaine manière.
Ah oui, moi, quand je me suis réveillée, quand je suis revenue à moi, à la fin de la respiration holotropique, j'avais l'impression d'avoir rêvé. Surtout que je vous dis, c'était la première fois que je faisais cette respiration. Donc, pour moi, c'était vraiment... Puis, il faut dire que je n'ai jamais fait d'autres expériences, à part de l'hypnose, un petit peu d'hypnose. J'ai pas fait d'autres expériences ailleurs.
D'accord. Donc, ça a titillé votre curiosité, tant et si bien que vous êtes dit, il faudrait que j'aille vérifier si ce lieu correspond à quelque chose ou pas.
Non, c'est Johar. C'est Johar qui m'a dit, Carmen, il faut que, faut pas que tu restes comme ça. Il faut que tu ailles voir cette église, il faut que tu rentres dans cette église et que tu vois si ça correspond à ce que tu as vécu. Donc, j'ai attendu l'été et l'été suivant, je suis allée. Et pour la première fois, j'ai vu que la porte était ouverte et je suis rentrée dans cette église. Et alors là, ça a été un choc, mais vraiment très, très, très fort. Et j'étais obligée de m'appuyer contre un poteau, enfin une colonne qui était tout de suite à ma droite, parce que ça correspondait exactement à ce que j'avais vu. Hein. Les murs blancs, le grand tableau de la Vierge en face de moi, comment ça s'appelle, la statue de Saint-Antoine au fond. Vraiment, exactement, exactement. Et j'ai eu une oppression, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Hein.
Ben oui, on peut le concevoir, d'autant plus que la perception qui avait été la vôtre avait été celle du dessin aussi, donc devait amplifier votre malaise.
Oui, oui. Et vous savez, depuis que je suis rentrée dans cette église, chaque année, j'y vais et j'essaye de rentrer. Eh bien, je trouve toujours la porte fermée. Je ne suis jamais pu rentrer à nouveau dans cette église.
Ah, c'est complètement étonnant, ça.
C'est fou, hein.
Avez-vous demandé à votre maman ou à d'autres personnes contemporaines de l'événement si la façon dont elles étaient vêtues et que vous avez vu bien des années après correspondait justement à ces images?
Oui, alors j'en ai discuté avec une de mes tantes, un petit peu ma mère, mais effectivement, elles étaient toutes exactement pareilles que je les avais vues et tout.
Alors, quel est l'enseignement que vous tirez de ça? Vous avez eu la sensation de faire une sorte d'escapade dans le temps, de remonter le temps?
Oui, j'ai un peu remonté le temps, oui, effectivement. Mais surtout, j'ai donné une place à ce père qui m'a tant manqué. Grâce à ce retour en arrière, ça m'a permis de voir que, effectivement, j'avais un père qui, malheureusement, est décédé, mais j'avais un père qui m'aimait. Et depuis, je ne suis plus à la recherche de ce père. Parce que bien sûr, quand on est orpheline d'un parent, on idéalise beaucoup le père et on idéalise le manquant et on est toujours à la recherche de ce manquant. Et moi je suis en paix maintenant avec mon père.
Avez-vous le sentiment qu'il y a eu une sorte de dialogue, mais d'une certaine manière, donc un dialogue télépathique? Dès lors où vous étiez projeté dans cette église à des années de distance et que vous preniez la place de votre papa.
Oui, oui, oui.
C'est là qu'il y a eu cet apaisement?
Oui, oui, oui. C'est là qu'il y a eu cet apaisement et c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu un grand soulagement dans ma vie, oui.
Voilà, c'était le témoignage de Carmen. Alors au 01 42 32 15 15, il y a quelques sceptiques qui se manifestent. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi, Yves dit, l'invité ne risque-t-elle pas d'être inquiété par la loi contre les sectes? Je ne vois pas en quoi. Je rappelle que vous êtes psychanalyste, que vous travaillez avec un psychiatre, entre autres, que vous êtes des gens qui avaient pignon sur rue. Et puis par ailleurs, là je réponds à une autre question, c'est Michel qui dit, avez-vous vécu une expérience d'état de conscience modifié vous-même? Si oui, jusqu'à quel niveau? Moi j'ai été dans votre centre. Ce sont des conditions médicales, donc un milieu extrêmement sérieux. Il n'y a pas d'incidence de je ne sais trop quelle philosophie religieuse. Et alors que la semaine dernière, on a eu des expériences que j'ai menées ici et là et qui n'étaient pas toujours malheureusement abouties, là, il est vrai, je ne sais pas si on aura le temps d'évoquer légèrement ce que j'ai ressenti ce jour-là, toujours est-il que je me suis retrouvé projeté dans une situation totalement invraisemblable et qui ne sortait ni de mon imagination, et je ne suis pas dans une secte pour autant, je ne vous ai pas revu depuis. Voilà, ouais. Alors, répondez quand même.
Je vais quand même répondre à cette question. C'est une question, j'ai envie de dire, bateau, qui à la fois a ses raisons hein, dans ce qui se passe actuellement. Ce que ne savent pas les gens, c'est que tout est une définition de cadre, tout est une question de cadre. Effectivement, on peut utiliser toutes les techniques, peuvent être utilisées, elles ont été utilisées dans le temps, dans tous les régimes dictatoriaux et dans toutes les sectes, effectivement, on peut utiliser l'hypnose, on peut utiliser l'isolation sensorielle, et on le sait, hein, on a souvent entendu parler des procès concernant certaines sectes, on peut très bien...
Les prières aussi.
Les prières, on peut très bien utiliser. Donc tout est une question, et nous répétons, et merci de le répéter, que nous faisons ça dans un cadre thérapeutique et de développement personnel, que la définition du cadre est très stricte et que c'est exactement comme les personnes qui viennent nous voir en thérapie individuelle. C'est exactement du même ordre, mais être secte veut dire tout à fait autre chose.
Ça relève presque des expériences depuis Ségur ou de Mesmer au siècle dernier.
Hein, absolument. Nous revendiquons cette filiation avec
Ségur. Alors on peut rappeler en deux mots Puis Ségur.
Alors Puis Ségur était le marquis de Puis Ségur qui a utilisé d'une certaine façon ce qu'on appelait à l'époque les passes magnétiques, et pour mettre les personnes en état somnambulique. Et il a eu la surprise de voir qu'en mettant un jour un de ces paysans en état somnambulique, ce paysan pouvait avoir des visions et de son corps, une perception, une auto-perception de son corps, de ses maladies, d'en donner les prescriptions qui paraissaient tout à fait aberrantes au marquis de Puységur, mais qui étaient suffisamment humbles pour pouvoir les prescrire au sujet et les suivre. Et ce paysan qui s'appelait Victoras était guéri. Donc je crois que ça m'amène aussi à dire quelque chose, c'est que dans ce travail, il y a une certaine humilité. C'est-à-dire que nous mettons, nous les thérapeutes et le conscient des sujets, nous mettons nos forces et notre psyché au service de ce qui va devenir et pas à notre service, qui est quand même une différence fondamentale.
Et quand on disait tout à l'heure que le groupe est important, puisque la thérapie concerne là 18 personnes, d'abord il y a celles qui se trouvent dans cet état de somnambulisme, entre guillemets, d'état modifié de conscience, et puis il y a les autres qui surveillent ce qui se passe. Si c'était une secte, tout le monde serait allongé en même temps, déjà.
Oui, je pense. Hein, je n'ai pas trop fait de travail sur les sectes, mais j'imagine. Autre chose, c'est que effectivement, le groupe est important pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que dans toutes les sociétés dites traditionnelles, le groupe est utilisé, il suffit de regarder quelques documents dits ethnologiques, pour voir que des personnes, un groupe peut entrer sous la direction d'un thérapeute, entre guillemets, d'un chaman, vous disiez tout à l'heure, ou dans ces états, et on utilise pour ce faire un certain nombre de stimuli, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être des musiques, des tambours répétitifs, des musiques tribales. Ça peut être aussi dans d'autres contextes des isolations sensorielles, c'est-à-dire quelqu'un qu'on va mettre dans des caissons à isolation sensorielle, comme ça a été la mode à un moment donné. On peut utiliser dans d'autres contextes, dans d'autres pays, je pense que vous avez déjà invité quelqu'un, la prise de plantes dites hallucinogènes, qui ont aussi le même principe. Dans ce travail, tel qu'il a été mis au point, après des années de travail avec des produits par le psychiatre Stanislav Grof, c'est uniquement l'hyperventilation et la psyché du sujet qui va diriger l'expérience. Et ça, c'est une différence fondamentale avec les sectes.
Voilà, c'est-à-dire que sur les 9 personnes qui se trouvent là, toutes n'auront pas le même ressenti. Si on prend une foule sous le conditionnement d'un dictateur avec des leitmotivs, des paroles très très fortes, elles vont toutes créer une sorte d'entité psychique en adhérant au discours. Là, en réalité, chacun va avoir son propre cheminement, donc l'embarquement personnel.
Exactement, embarquement et voyage personnel, c'est la chose la plus difficile à faire entendre, parce que les gens, quand les gens vous pètent en disant « mais c'est peut-être une secte », il y a toujours, et ça c'est, je suis désolée, mais c'est la psychanalyse qui parle, il y a toujours refoulé à l'intérieur de soi l'envie de confier son destin à quelqu'un. Or, le travail que nous faisons, c'est de dire que c'est pas nous que les gens confient leur destin, c'est à eux-mêmes, et c'est eux-mêmes qui peuvent s'autoriser à aller le plus loin possible dans leur expérience, et nous sommes là pour les accompagner, mais qu'ils ne peuvent pas aller plus loin que ce que leur inconscient leur permet ce jour-là.
Eh bien, on va voir ce que l'on se permet après une page de publicité.